Faisons le point sur les dernières nouveautés du magazine Habitat Naturel avec sa rédactrice en chef, Gwenola Doharé.
Nous allons nous intéresser au numéro 34 du magazine Habitat Naturel pour septembre et octobre 2010, avec tout d'abord une bonne nouvelle et de grandes ambitions affichées en termes d'efficacité énergétique pour les bâtiments neufs à compter de 2013.
Jusqu'ici, nous étions sous le régime réglementation thermique 2005. Il y avait très peu d'exigences en matière de performance thermique. Et à compter de 2013, on sait déjà à quelle sauce on sera mangé au niveau des normes de construction. Ça correspond ni plus ni moins au label BBC Effinergie, actuellement en vigueur et qui fait l'objet déjà de valorisation, notamment par les aides. C'est-à-dire que si vous construisez une maison BBC, qui répond à certains critères de performance, de consommation notamment, vous avez droit à certaines aides de l'État. C'est là-dessus que s'est bâtie un petit peu la réglementation thermique pour 2012, quoi. Alors ces critères, c'est essentiellement une consommation annuelle inférieure à 50 kWh par mètre carré par an en énergie primaire. Alors ça peut paraître un peu compliqué. Alors dedans on met quoi? On met le chauffage, la ventilation, tout ce qui est consommé par les auxiliaires, on va dire, l'éclairage. Tout ça converti en énergie primaire, c'est-à-dire qu'on prend en compte les pertes en ligne, etc. Il y a des coefficients pour savoir exactement ce que ça demande en énergie à la base, mettons dans une centrale, ne doit pas dépasser un certain seuil par mètre carré et par an. Donc après, c'est modulé en fonction de la région. Par la suite, il y a des exigences de moyens dans cette réglementation thermique, notamment de ne plus avoir de pont thermique, c'est-à-dire de ne plus avoir de fuite, d'avoir des maisons vraiment étanches à l'air. Avec donc bien sûr la ventilation adaptée, pour pas non plus faire des bouteilles thermos. Voilà, il faut une surface minimale de vitrage avec des protections solaires pour éviter les surchauffes en été. Autant que possible, recours aux énergies renouvelables, notamment pour le chauffe-eau solaire. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle le label BBC, bâtiment basse consommation. Ce sera effectivement la règle de base de toute construction à partir de 2013. Donc on aura des maisons économes, étanches à l'air, sans pont thermique, avec suffisamment de vitrage pour favoriser le solaire passif sans provoquer des surchauffes l'été.
Alors avec ce type de construction, on favorisera donc des modes alternatifs de chauffage, comme le poêle hydro.
Alors le poêle hydro, c'est finalement une mini-chaudière. Donc ça peut être très intéressant dans des situations où on n'a pas la place de mettre une chaudière et un silo par exemple. Ça peut suffire aussi si on a des besoins peut-être plus faibles que nécessite une grosse chaudière. Ça prend la même place qu'un petit poêle sec, comme on dit. Ça chauffe de l'eau dans un circuit de chauffage central, exactement comme n'importe quelle chaudière. Donc c'est très efficace. Ils s'en font des suffisamment puissants pour chauffer des maisons même anciennes. Le seul inconvénient, c'est que ça reste un poêle, donc il faut l'alimenter manuellement régulièrement.
Donc c'est une des solutions qui est proposée notamment dans le dossier chauffage bois dans ce magazine. Il y a même un tableau comparatif qui permet de bien s'y retrouver. Sur quels critères on doit se baser quand on doit choisir un mode de chauffage alternatif?
Il faut partir de l'existant. Est-ce qu'on a déjà un réseau de chauffage central ou pas? Est-ce qu'on veut conserver sa chaudière existante ou pas? Donc est-ce qu'on va chercher plutôt un chauffage d'appoint ou un chauffage principal? Donc en fonction de ça, après, il y a plein de possibilités, autant dans les poêles que dans les chaudières. On va choisir aussi un combustible en fonction de ce qui est disponible localement. Nous, en région Poitou-Charentes, on n'a pas de souci pour trouver du granulé. On peut tout à fait opter pour des poêles ou des chaudières à granulé. Mais peut-être que si on habite à la campagne, ça peut être très cohérent d'avoir une chaudière à plaquettes. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il faut bien sûr étudier les besoins de la maison et commencer par essayer de réduire ses besoins en isolant, si possible, le plus possible sa maison.
Au mieux. Pour s'y retrouver, un bon dossier y est consacré dans le magazine. On parlait maisons à l'instant. On voit dans ce magazine aussi des maisons passives qui voient le jour un petit peu partout en France. Est-ce que vous avez peut-être quelques exemples à nous donner?
Si on veut vraiment être une vraie maison passive, c'est une maison labellisée passive. Je crois qu'il y en a 7 seulement en France à ce jour. Alors, on peut avoir aussi des maisons passives dans les fêtes sans qu'elles aient de label, c'est-à-dire que c'est des maisons qui n'ont pas besoin de chauffage ou quasiment pas. Le principe, c'est là encore de réduire le plus possible les besoins. Les critères du label, c'est 15 kWh par mètre carré par an uniquement pour le chauffage. Donc, c'est des maisons extrêmement bien isolées qui ont très souvent recours au triple vitrage, qui sont bien évidemment étanches à l'air. Ils ont tellement peu de besoins que finalement, on se retrouve avec les habitants, la cuisson des aliments, les matériels électroménagers, l'informatique, etc., participent jusqu'à à peu près un tiers à satisfaire les besoins de chauffage. On a besoin de trois fois rien. Le reste est généralement couvert par une ventilation mécanique contrôlée, une VMC, double flux. Oui. Il y a la particularité de préchauffer l'air neuf par l'air extrait et de diminuer encore ses besoins. Alors on peut même y accoler une mini pompe à chaleur. Enfin, on a des besoins tellement réduits qu'un rien et on a une maison confortable sans besoin d'appareil de chauffage. Donc là, on montre en fait la première qui a été réalisée en Auvergne, qui est toute simple, qui n'est pas un prix exorbitant puisqu'elle est à 2000 euros le mètre carré. Et il prétend pouvoir même encore descendre, peut-être en systématisant les modèles. On trouve très bien aujourd'hui des maisons moins performantes en bois pour ce prix-là. Donc c'est quand même une belle performance. Elle est labellisée, bon, elle montre toute son efficacité. Alors ce sont souvent des maisons compactes hein, pour éviter les déperditions par les murs extérieurs. Très cubiques, on va dire. Si on fait une maison de plein pied ou en L, on augmente les surfaces en contact avec l'extérieur et donc les déperditions thermiques. Les maisons compactes, elles sont bien entendu bioclimatiques, donc très ouvertes au sud, très fermées au nord et à l'ouest, en tout cas au vent dominant. Voilà, il y a tout un travail de conception dès le départ qui permet déjà de limiter les besoins. Et ensuite, bah, c'est une surisolation, donc à la fois intérieure et extérieure. Et puis voilà, on arrive à des besoins infimes.